Bon, je suis ravi d'être là pour cette soirée littéraire, surtout d'être en présence de Jean-Pierre Desvarnon, qui va faire de très belles lectures de ce texte, j'en suis sûr. Oui, lorsque Denis et Charles-Henri m'ont demandé de faire ce choix de texte, ce n'était pas forcément une chose très facile, parce que bon, il y a forcément beaucoup de choix. Donc du coup, il s'agit de textes de prose et de poésie du 19e et du 20e siècle, de pas mal de littérature nationale différente, portugaise, française, italienne, anglaise, américaine. Bon, vous allez reconnaître les choses. Et du coup, moi, je vais tout simplement dire de qui il s'agit, l'auteur et le titre du texte. Ensuite, on aura la lecture de Jean-Pierre. Et puis, je vais proposer quelques éléments d'analyse. Mais bon, ce ne sera pas vraiment des analyses strictement universitaires, on va dire, ou critiques, mais plutôt des pistes de réflexion pour nous tous, pour qu'on puisse avoir de la discussion après. Voilà, donc plutôt pour ouvrir la discussion, du coup, pas trop d'analyse et quelques pistes de réflexion. Voilà. Du coup, notre premier texte, c'est le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa.
Lorsque je dors de nombreux rêves, je sors dans la rue. Les greux, les yeux grands ouverts, mais voguant encore dans leur sillage et leur assurance. Et je suis stupéfié de mon automatisme qui fait que les autres m'ignorent. Car je traverse la vie quotidienne sans lâcher la main de ma nourrice astrale, tandis que mes pas, au long des rues, s'accordent et s'harmonisent aux dessins obscurs de mon imagination semi-dormante. Et cependant, je marche normalement, je ne trébuche pas, je réponds correctement, j'existe. Mais, au premier instant de répit, dès que je n'ai plus besoin de surveiller ma marche pour éviter des véhicules ou ne pas gêner les passants, dès que je n'ai plus à parler au premier venu ni la pénible obligation de franchir une porte toute proche, alors je pars de nouveau sur les eaux du rêve comme un bateau de papier à bout pointu et je retourne une nouvelle fois à l'illusion languissante qui avait bercé ma vague conscience du matin naissant au son des carrioles qui légumisent. C'est alors au beau milieu de la vie que le rêve déploie ses vastes cinémas. Je descends une rue irréelle de la ville basse et la réalité des vies qui n'existent pas m'enveloppe tendrement le front d'un chiffon blanc de fausses réminiscences. Je suis navigateur sur une mer ignorée de moi-même. J'ai triomphé de tout là où je ne suis jamais allé. Et c'est une brise nouvelle que cette somnolence dans laquelle je peux avancer, pencher en avant pour cette marche sur l'impossible.
Le début de ce passage de Pessoa nous jette déjà dans une ambiguïté extrême. Car le promeneur solitaire, qui est cette voix lyrique, dort-il réellement? Ces promenades ont-ils lieu vraiment, toujours entre guillemets, en rêvant ou après que le rêve s'est terminé? Comment fixer d'ailleurs une frontière claire ici entre le rêve et le réel, qui contribuent chacun à former le même spectre affectif? La sensation de légèreté, l'émotion de joie qui découle de cet état, sont le fruit d'une sensation de fusion subjective avec le monde environnant. Mes pas au long des rues s'accordent et s'harmonisent aux dessins obscurs de mon imagination semi-dormante. Est-ce une harmonie trouvée avec le monde, donc, ou simplement avec le simulacre de ce monde, transporté et reconstruit à l'intérieur de l'esprit? Or, cette promenade n'est pas moins réelle, bien sûr, à cause du fait qu'elle se passe peut-être à l'intérieur de l'esprit et qu'elle incite ainsi à explorer ce que Pessoa nomme cette mer ignorée de moi-même. Pessoa souligne ainsi l'inconscience avec laquelle nous traversons souvent ces lieux, bercés par des impressions et des sensations apparemment extérieures, mais qui ont aussi pour origine l'activité de projection de l'imaginaire. Et cependant, je marche normalement, je ne trébuche pas, je réponds correctement, j'existe. dans cette équivocité extrême, Pessoa interroge quelle serait une émotion normale, une existence normale, d'une vie normalement éveillée. J'ai triomphé de tout là où je ne suis jamais allé. C'est donc une affirmation paradoxale qui décrit une victoire profondément équivoque, une victoire de l'imaginaire qui créait sa propre richesse émotionnelle par le fait d'habiter un espace existentiel et ontologique toujours fluctuant. Donc, le deuxième texte, c'est d'Émile Zola, Le ventre de Paris.
Pardon. Il leva une dernière fois les yeux, il regarda les halles, elles flambaient dans le soleil. Un grand rayon entrait par le bout de la rue couverte au fond, trouant la masse des pavillons d'un portique de lumière. Et battant la nappe des toitures, une pluie ardente tombait. L'énorme charpente de fonte se noyait, bleuissait, n'était plus qu'un profil sombre sur les flammes d'incendie du Levant. En haut, une vitre s'allumait, une goutte de clarté roulait jusqu'aux gouttières, le long de la pente des larges plaques de zinc. Ce fut alors une cité tumultueuse dans une poussière d'or volante. Le réveil avait grandi du ronflement des maraîchers couchés sous leurs limousines au roulement plus vif des arrivages. Maintenant la vie entière repliait ses grilles, les carreaux bourdonnaient, les pavillons grondaient, toutes les voix données et l'on eût dit l'épanouissement magistral de cette phrase que Florent, depuis 4 heures du matin, entendait se traîner et se grossir dans l'ombre. À droite, à gauche, de tous côtés, des glapissements de criers mettaient des notes aiguës de petites flûtes au milieu des basses sourdes de la foule. C'était la marée, c'était les beurs, c'était la volaille, c'était la viande. Des volées de cloches passaient, secouant derrière elles le murmure des marchés qui s'ouvrent. Autour de lui, le soleil enflammait les légumes. Il ne reconnaissait plus l'aquarelle tendre des pâleurs de l'aube. Les cœurs élargis des salades brûlaient, la gamme de verre éclatait en vigueur superbe, les carottes saignaient, les navets devenaient incandescents dans ce brasier triomphal. À sa gauche, des tombereaux de choux s'éboulaient encore. Il tourna les yeux, il vit au loin des camions qui débouchaient toujours de la rue Turbigot. La mer continuait à monter. Il l'avait sentie à ses chevilles et puis à son ventre. Elle menaçait à cette heure de passer par-dessus sa tête. Aveuglé, noyé, les oreilles sonnantes, l'estomac écrasé par tout ce qu'il avait vu, devinant de nouvelles et incessantes profondeurs des nourritures, il demanda grâce et une douleur folle le prit de mourir ainsi de faim dans Paris gorgé dans ce réveil fulgurant des halles. De grosses larmes chaudes jaillir de ses yeux.
Donc, comme c'est si souvent le cas avec Zola et avec beaucoup de naturalisme du 19e siècle, par ailleurs, nous nous trouvons ici dans une logique d'accumulation, où les structures de répétition de la syntaxe, c'était la marée, c'était les peurs, c'était la volaille, c'était la viande, etc., imite et reproduit l'accumulation de ces objets de commerce de la ville mercantile du 19e siècle. Dans ce tumulte, un état émotionnel se dessine entre excitation et souffrance extrême. Les sens n'arrivent plus à rendre compte d'une telle accumulation. Aveuglés, noyés, les oreilles sonnantes, Florent est ainsi réduit à une intensité émotionnelle pure, où les larmes de la fin du passage seraient, en fin de compte, la seule réponse possible, peut-être, à un monde d'excès et de surenchère passionnelle. Cette intensité émotive intervient donc au point où l'appréhension sensuelle, devant un lieu infiniment chargé, fait défaut et ne peut plus accueillir la diversité et la richesse de ce que Zola nomme ses incessantes profondeurs. Une dialectique entre la plénitude et le vide, le désir et la faim, ne peut qu'aboutir alors, semble-t-il, à l'intensité d'un affect qui reste sans désignation et sans interprétation finale quant à sa valeur. Donc, le troisième texte, vous allez le connaître peut-être, est de Baudelaire, Les Sept Vieillards.
attention, hein, Baudelaire. Hein. Rigole plus, là. Fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour accroche le passant. Les mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant. Un matin, cependant, que dans la triste rue, les maisons, dans la brume allongeait la hauteur, simulaient les deux quais d'une rivière accrue, et que décors semblables à l'âme de l'acteur, un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace. Je suivais, raidissant mes nerfs comme un héros, et discutant avec mon âme déjà lasse, le faubourg secoué par les lourds tombereaux. Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes imitaient la couleur de ce ciel pluvieux et dont l'aspect aurait fait pleuvoir les aumônes sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux m'apparut. On eût dit sa prunelle trempée dans le fiel. Son regard aiguisait les frimas et sa barbe à longs poils, raide comme une épée, se projetait pareille à celle de Judas. Il n'était pas voûté, mais cassé. Son échine faisant avec sa jambe un parfait angle droit, si bien que son bâton, parachevant sa mine, lui donnait la tournure et le pas maladroit d'un quadrupède infirme ou d'un juif à trois pattes. Dans la neige et la boue, il allait s'empêtrant comme s'il écrasait des morts sous ses sabates, hostile à l'univers plutôt qu'indifférent. Son pareil le suivait. Barbe, œil, dos, bâton, loque. Nul trait ne distinguait du même enfer venu ce jumeaux centenaires et ses spectres baroques marchaient du même pas vers un but inconnu. À quel complot infâme étais-je donc en but? Ou quel méchant hasard ainsi m'humiliait? Car je comptais 7 fois, de minute en minute, ce sinistre vieillard qui se multipliait.
Donc ces vers très célèbres d'ailleurs qui commencent le poème définissent tout de suite un espace, ce lieu, comme un lieu d'irréalité et de spectralité. Fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour accroche le passant. Les individus fantomatiques qui traversent ces espaces urbains sont donc dénués de solidité, d'ontologie. Et tout comme on l'a vu pour Pessoa, Baudelaire associe ici l'accumulation de l'espace urbain, ses effets de miroitement et de dédoublement, à une structure qui met en cause la subjectivité et l'individualité. Ce brouillard sale et jaune, d'ailleurs, qui inonde tout l'espace, augmente cet effet d'homogénéisation. Tout commence à se ressembler dans cette obscurité, où le brouillard devient symbolique d'une masse, d'une collectivité, où l'individualité des sujets uniques est difficilement identifiable. La multiplication du veillard, de la fin du poème, joue donc, ici encore, sur un motif de différence et du semblable. Dans quelle mesure ces 7 individus sont-ils différents, uniques, des miroitements les uns des autres, ou bien la multiplication d'une seule et même identité? Donc, si ces vieillards se ressemblent de l'extérieur, s'agit-il d'une ressemblance seulement superficielle, et qu'en dessous, il y aurait des vies émotionnelles tout à fait distinctes? Ou bien le propos de Baudelaire est-il encore plus radical? C'est-à-dire que dans cet espace urbain de standardisation, les vies émotionnelles de ces individus sont-elles, elles aussi, doublées, répétées, multipliées? Donc on est tous convaincus, peut-être parfois, de l'extrême subjectivité de nos états affectifs. Et Baudelaire met en cause précisément cette impression d'unicité et de spécificité qui fait partie de l'esprit individualiste de la modernité, tout en étant menacé par elle. Son pareil le suivait, nous disons. Aurions-nous donc tous de tels êtres pareils que nous, des êtres non pas simplement semblables à nous, mais des extrapolations, voire des miroirs de ce qui nous semble en nous le plus personnel, le plus subjectif et aussi le plus émotionnellement intime. Le prochain texte est de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway.
depuis qu'elle était si malheureuse. Cela faisait des semaines maintenant. Rezia donnait un sens aux choses qui lui arrivaient et quelquefois elle avait envie d'arrêter les passants dans la rue s'ils avaient l'air de braves gens, rien que pour leur dire « Je suis malheureuse ». Et cette pauvre femme qui chantait dans la rue, si l'on nous voit, qu'est-ce que cela fait ? La rendit soudain absolument sûre que tout allait bien tourner. Ils allaient voir Sir William Bradshaw. C'était un si beau nom. Il guérirait Septimus tout de suite, et puis ce camion de brasserie dont les chevaux gris ont des brins de paille plantés droit dans la queue, ces affiches de journaux. Quel cauchemar stupide que d'être malheureuse. Ils traversèrent donc Monsieur et Madame Septimus, Warren Smith, et rien vraiment n'attirait l'attention sur eux, rien ne faisait soupçonner aux passants que ce jeune homme portait en lui le plus grand message du monde et qu'il était, en outre, l'homme le plus heureux du monde et l'homme le plus misérable. Peut-être marche-t-il plus lentement que les autres, peut-être y a-t-il quelque chose d'hésitant, de traînant dans la démarche de l'homme, mais quoi de plus naturel pour un employé qui n'a pas été dans le West End un jour de semaine à cette heure-ci depuis des années que de regarder le ciel et ceci et cela comme si Portland Place était un salon, comme s'il y entrait pendant que la famille était en voyage. Les candélabres sont dans leur housse de toile et la femme de charge, en levant un coin des stores, de longs rayons de soleil poussiéreux se posent sur les fauteuils vides et étranges, explique aux visiteurs que ce lieu est merveilleux. Merveilleux, mais en même temps, pense-t-il, si étrange. Londres dévore des milliers de jeunes gens appelés Smith et ne fait aucun cas des prénoms fantastiques comme celui de Septimus, avec lequel des parents crurent distinguer leur enfant.
Tout au long de ce passage, Wolfe souligne l'invisibilité de la vie affective intérieure pour ces autres qui nous entourent. Tout signe extérieur d'affect intérieur passager peut donc rentrer dans une logique de normalisation, même si une femme marche plus lentement ou de façon plus hésitante ou semble troublée dans ces rues londoniennes. Cette apparence peut simplement être expliquée et donc dissipée par les spectateurs, par les autres habitants de ces lieux, par l'appel aux critères de la normalité affective. Quoi de plus naturel devient donc ici une façon de refuser une pénétration empathique dans l'intériorité affective. Dans son malheur, de façon importante, Rezia ne cherche pas à rentrer dans des rapports d'empathie avec les autres habitants de Londres, qu'elle a envie d'arrêter dans la rue. Elle désire simplement accorder une existence à son émotion, de reconnaître la légitimité de cet état de par cette affirmation « Je suis malheureuse ». Elle souhaite donc non pas faire comprendre aux autres ce malheur, mais simplement l'avouer. En plus, elle est dérangée par le fait que ce malheur persiste malgré les possibilités de joie et de richesse de ces lieux urbains. C'est une émotion non simplement désagréable, alors, mais surtout qui n'est pas en adéquation avec le monde qui l'entoure, et c'est peut-être même d'ailleurs ce deuxième aspect qui la perturbe le plus. La dernière phrase du passage témoigne donc du risque d'écrasement ici de toute individualité. La ville transformée en bête dévorante serait une incarnation aveugle d'un monde qui, n'ayant pas d'émotion humaine, ne ressent pas la nécessité de reconnaître la valeur de l'émotion subjective et qui tend donc à digérer toutes ces différences émotionnelles pour en faire une masse homogène. Le prochain texte, et ça tombe bien, étant donné les discussions d'aujourd'hui, Marcel Proust, du côté de chez soi.
Oh putain, faut que je me trompe. J'avais toujours à portée de ma main un plan de Paris qui, parce qu'on pouvait y distinguer la rue où habitaient Monsieur et Madame Swann, me semblait contenir un trésor. Et par plaisir, par une sorte de fidélité chevaleresque aussi, à propos de n'importe quoi, je disais le nom de cette rue, si bien que mon père me demandait, n'étant pas comme ma mère et ma grand-mère au courant de mon amour, « Mais pourquoi parles-tu tout le temps de cette rue ? Elle n'a rien d'extraordinaire, elle est très agréable à habiter parce qu'elle est à deux pas du bois, mais il y en a 10 autres dans le même cas. » Mon imagination avait isolé et consacré dans le Paris social une certaine famille, comme elle avait fait dans Paris de pierre pour une certaine maison dont elle avait sculpté la porte cochère et rendu précieuses les fenêtres. Mais ces ornements, j'étais seul à les voir. De même que mon père et ma mère trouvaient la maison qu'habitait Swann pareille aux autres maisons construites en même temps dans le quartier du Bois, de même la famille de Swann leur semblait du même genre que beaucoup d'autres familles d'agents de change. Il la jugeait plus ou moins favorablement selon le degré où elle avait participé à des mérites communs au reste de l'univers et ne lui trouvait rien d'unique. Ce qu'au contraire ils y appréciaient, ils le rencontraient à un degré égal ou plus élevé ailleurs. Aussi, après avoir trouvé la maison bien située, ils parlaient d'une autre qui l'était mieux mais qui n'avait rien à voir avec Gilberte ou de financiers d'un cran supérieur à son grand-père. Et s'ils avaient eu l'air un moment d'être du même avis que moi, c'était par un malentendu qui ne tardait pas à se dissiper. C'est que pour percevoir dans tout ce qui entourait Gilberte une qualité inconnue, analogue dans le monde des émotions à ce que peut être dans celui des couleurs, l'infrarouge, mes parents étaient dépourvus de ce sens supplémentaire et momentané dont m'avait doté l'amour.
En faisant de cette rue où habitaient Monsieur et Madame Swann la rue la plus fascinante et la rue la plus importante imaginable, Proust souligne non seulement la relativité extrême de notre rapport affectif au lieu, mais la manière dont ce spectre émotionnel changeant influence tous nos systèmes de valeurs. Le plan de la ville mentionné au début du passage est parfois, peut-être même par nos disciplines, conçu de manière réductrice comme une abstraction rationalisante qui considère toute place, toute rue ou tout boulevard de façon peut-être prétendument égale. Ici, cependant, c'est tout le contraire. Même si le plan de la ville aspire ou semble aspirer à créer une image rationnelle et surtout utilitariste, ce pragmatisme s'avère inadéquat face à la puissance de projection du sujet lui-même, qui investit des endroits apparemment quotidiens ou inimportants, de valeurs affectives tout à fait intenses qui, du coup, transforment intégralement ces espaces. Il n'y a pour Swann donc aucune possibilité de comparaison. Ces émotions, tout comme cette petite rue insignifiante, sont proprement incomparables, pardon, pour Marcel, pas pour Swann. Il n'y a pour Marcel aucune possibilité de comparaison. Ces émotions, tout comme ces petites rues insignifiantes, sont proprement incomparables car elles sont les siennes et ont du sens uniquement par rapport à la spécificité même de sa vie affective. Donc, du coup, comme l'infrarouge, comme cette image, l'amour devient ce qui accorde à Marcel une puissance perceptive supérieure, la capacité de sentir et de percevoir des forces indétectables à tout autre être humain. Donc, le prochain texte, c'est de Guillaume Apollinaire, Zone. Je l'ai dit.
Apollinaire. Pas non plus. Deux pages en plus. Merci, merci Nicolas. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère, aux tours Eiffel, le troupeau des pombelles, ce matin, tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici même, les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple comme les hangars de port aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pidis. Et toi que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux. Il y a les livraisons à 25 centimes, pleines d'aventures policières, portraits de grands hommes et 1000 titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom, neuve et propre du soleil. Elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes, du lundi matin au samedi soir, 4 fois par jour y passent. Le matin, 3 fois, la sirène y gémit, une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris entre la rue Aumontierville et l'avenue des Ternes. Voilà la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant, ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc. Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades, René Dalyse, vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église. Il est 9 heures, le gaz est baissé, tout bleu, vous sortez du dortoir en cachette, vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège, tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ. C'est le bolis que tous nous cultivons, c'est la torche aux cheveux roux qui n'atteint pas le vent, c'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère, c'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières, c'est la double potence de l'honneur et de l'éternité. C'est l'étoile à 6 branches, c'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche. C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs, il détient le record du monde pour la hauteur. Pupille Christ de l'œil, 20e pupille des siècles, il sait y faire, et changé en oiseau, ce siècle comme Jésus monte dans l'air. Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder. Ils disent qu'il imite Simon Mage en Judée. Il crie s'il s'est volé qu'on l'appelle voleur. Les anges voltigent autour du joli voltigeur. Icare, Enoch, Élie, Apollonius de Tyane flottent autour du premier aéroplane. Ils s'écartent parfois pour laisser passer ceux que transporte la sainte Eucharistie, ces prêtres qui montent éternellement élevant l'hostie. L'avion se pose enfin sans refermer les ailes et le ciel s'emplit alors de millions d'hirondelles. Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule. Des troupeaux d'autobus mugissant près de toi roulent. L'angoisse de l'amour te serre le gosier comme si tu ne devais jamais plus être aimé. Si tu vivais dans l'ancien temps, tu entrerais dans un monastère. Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière. Tu te moques de toi et comme le feu de l'enfer, ton rire pétille. Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie. C'est un tableau pendu dans un sombre musée et quelquefois tu vas le regarder de près. Aujourd'hui tu marches dans Paris, les femmes sont ensanglantées. C'était, et je voudrais ne pas m'en souvenir, c'était au déclin de la beauté, entourée de flammes ferventes. Notre-Dame m'a regardé à Chartres. Le sang de votre Sacré-Cœur m'a inondé à Montmartre. Je suis malade d'ouïr les paroles bienheureuses. L'amour dont je souffre est une maladie honteuse. Et l'image qui te possède te fait survivre dans l'insomnie et dans l'angoisse. C'est toujours près de toi que cette image passe.
Tout au long de zone... La célèbre deuxième personne d'Apollinaire, maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule, non seulement nous place au centre de ce lieu, dans une focalisation extrême, mais nous invite à devenir en potentiel tous les personnages différents de cet espace. C'est donc une démultiplication de l'identité qui a lieu non seulement au moment de la modernité, mais à tous les niveaux de l'histoire. c'est-à-dire de la stratification historique de ces espaces. Car l'histoire ici n'est pas simplement une chronologie linéaire ou statique du temps passé. L'histoire elle-même, visible partout dans cette ville, est la cause même de réactions émotionnelles très fortes. Dans une série de renversements, alors, la tour Eiffel devient cette image pastorale du berger antique, et le Christ, au contraire, vole en aviateur au-dessus du monde moderne. La vie affective de la ville est ainsi faite de tous ses passés, culturels et spirituels, renversés et entremêlés les unes avec les autres, réunis dans la force de ses affects qui traversent le promeneur, rendus à la fois particuliers et universels par la force de ses émotions intérieures. Dans ce contexte où, comme Apollinaire le dit, l'angoisse de l'amour te serre le gosier comme si tu ne devais jamais plus être aimé, le retrait historique du monastère n'est plus une option possible pour ce sujet, parce qu'il rêve à rentrer au monastère à cause de cette souffrance d'amour. Et le sujet se trouve donc exposé dans une fragilité émotionnelle aux 1000 regards qui l'entourent. Donc, sans retrait possible, la seule possibilité reste de vivre toute cette intensité affective en plein air, pour ainsi dire. Visible à tous, donc une intensité qui, tout comme le Christ en aviateur, serait omniprésent et visible à chaque moment, à chaque habitant. Donc, le prochain texte de Georges Perec, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien.
Il y a beaucoup de choses place Saint-Sulpice. Par exemple, une mairie, un hôtel des finances, un commissariat de police, trois cafés dont un fait tabac, un cinéma, une église à laquelle ont travaillé Levaux, Gitard, Oppenheim, Servandoni et Chalgrin, et qui est dédié à un aumônier de Clotaire II qui fut évêque de Bourgogne de 624 à 644 et que l'on fête le 17 janvier. Un éditeur, une entreprise de pompes funèbres, une agence de voyage, un arrêt d'autobus, un tailleur, un hôtel, une fontaine, que décorent les statues des quatre grands orateurs chrétiens, Bossuet, Fénelon, Fléchier, Massillon, un kiosque à journaux, un marchand d'objets de piété, un parking, un institut de beauté, et bien d'autres choses encore. Un grand nombre, sinon la plupart de ces choses ont été décrites, inventoriées, photographiées, racontées, recensées. Mon propos dans les pages qui suivent a plutôt été de décrire le reste, ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance, ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. La date, 18 octobre 1974. L'heure, 10h30. Le lieu, tabac Saint-Sulpice. Le temps, froid sec. Ciel gris, quelques éclaircies. Esquisse d'un inventaire de quelques-unes des choses strictement visibles. Des lettres de l'alphabet, les mots KLM sur la pochette d'un promeneur. Un P majuscule qui signifie parking. Hôtel Récamier, Saint-Raphaël, l'épargne à la dérive, taxi tête de station, rue du Vieux-Colombier, brasserie bar La Fontaine Saint-Sulpice, P-E-L-F, parc Saint-Sulpice. Des slogans furtifs, de l'autobus, je regarde Paris. De la terre, du gravier tassé, du sable, de la pierre, la bordure des trottoirs, une fontaine, une église, des maisons, de l'asphalte, des arbres, feuilles souvent jaunissantes. Un morceau assez grand de ciel, peut-être un sixième de mon champ visuel. Une nuée de pigeons qui s'abat soudain sur le terre-plein central entre l'église et la fontaine. Des véhicules, leur inventaire reste à faire. Des êtres humains, un espèce de bossé. Un pain, une baguette, une salade frisée. Tout ça débordant partiellement d'un cabas.
Bon, vous aurez compris que Perec et Jean-Pierre, d'ailleurs, auraient pu continuer éternellement.
D'ailleurs, c'est dur. Sur le...
En effet, hein? C'est dur. Et le titre même de Perec souligne cette absurdité, mais qui est tout à fait intentionnelle, cette absurdité du projet, car dans la tentative d'épuisement d'un lieu parisien, nous savons tous, et Perec le premier, qu'un tel épuisement d'un lieu n'est ni possible, ni même souhaitable. Ce projet d'accumulation prend donc tout de suite une autre dimension, proprement philosophique. Car Perec joue partout avec cette ironie. Par exemple, lorsqu'il affirme, un grand nombre, sinon la plupart de ces choses, ont été décrites, inventoriées, photographiées, racontées ou recensées. Or, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire d'inventorier la plupart des choses dans un lieu ? Ou, pourquoi pas, la plupart des choses dans un monde, notre monde. Comme le projet d'inventorier la plupart des lieux, la plupart des émotions, la plupart des affects, Perec applique ici un vocabulaire rationalisant de quantification. À des phénomènes subjectifs, autogénérateurs, qui se créaient eux-mêmes, et qui donc forcément sans nombre et sans limite dans leur mode possible d'existence. En se penchant donc sur ce que Perec appelle « ce qui se passe quand il ne se passe rien », la question qui émerge, bien sûr, c'est « quel est ce rien ?» Qu'est-ce que ça veut dire d'affirmer que rien ne se passe ? De la même façon, qu'est-ce que cela veut dire d'affirmer « je ne sens rien » ? Qu'un lieu ne me fait rien sentir et ne m'impose donc aucun effet affectif. Le prochain texte de Georges-Louis Borges, L'Immortel.
Je pris pied sur une sorte de place, ou plutôt dans une cour. Elle était entourée d'un seul édifice de forme irrégulière et de hauteur variable. Diverses coupoles et colonnes appartenaient à cette construction hétérogène. Avant toute autre caractéristique du monument invraisemblable, l'extrême antiquité de son architecture me frappa. Je compris qu'il était antérieur aux hommes, antérieure à la terre. Cette ostensible antiquité, bien qu'effrayante en un sens pour le regard, me parut convenable à l'ouvrage d'artisans immortels. Prudemment d'abord, et puis avec indifférence, non sans désespoir à la fin, j'errai par les escaliers et les dallages de l'inextricable palais. Je vérifiai ensuite l'inconstance de la largeur et de la hauteur des marches. Je compris la singulière fatigue qu'elle me causait. Ce palais est l'œuvre des dieux, pensais-je d'abord. J'explorai les pièces inhabitées et corrigeai. Les dieux qui l'édifièrent sont morts. Je notai cette particularité et dis, les dieux qui l'éditèrent étaient fous. Je le dis, j'en suis certain, avec une incompréhensible réprobation qui était presque un remords avec plus d'horreur intellectuelle que de peur sensible. À l'impression d'antiquité inouïe, d'autres s'ajoutèrent, celle de l'indéfinissable, celle de l'atroce, celle du complet non-sens. J'étais passé par un labyrinthe, mais la très nette cité des immortels me fit frémir d'épouvante et de dégoût. Un labyrinthe est une chose faite à dessein pour confondre les hommes. Son architecture, prodigue en symétrie, est orientée à cette intention. Dans les palais que j'explorais imparfaitement, l'architecture était privée d'intention. On n'y rencontrait que couloirs sans issue, hautes fenêtres inaccessibles, portes colossales donnant sur une cellule ou sur un petit puits, incroyables escaliers inversés, au degré et à la rampe tournée vers le bas. D'autres fixés dans le vide à une paroi monumentale, sans aboutir nulle part, s'achever après deux ou trois paliers dans la ténèbre supérieure des coupoles. Je ne sais si tous les exemples que je viens d'énumérer sont littéraux. Je sais que, durant de nombreuses années, ils peuplèrent mes cauchemars. Je ne peux pas décider si tel ou tel détail traduit les réalités ou les formes qu'éprouvèrent mes nuits. Cette ville, pensais-je, est si horrible que sa seule existence et permanence, même au cœur d'un désert inconnu, contamine le passé et l'avenir et, de quelque façon, compromet les astres. Aussi longtemps qu'elle subsistera, personne au monde ne sera courageux ou heureux. Je ne veux pas la décrire, un chaos de paroles disparates, un corps de tigre ou de taureau, où pullulerait de façon monstrueuse, conjuguée et se haïssant des dents, des viscères et des têtes, pourrait à la rigueur en fournir des images approximatives.
La cité des immortels de Borges, c'est peut-être le cauchemar de l'architecte de l'humanisme aussi. Mais ce qui perturbe surtout ici le narrateur, c'est que cette cité des immortels serait, comme il le dit, une architecture privée d'intention. Tout fonctionne donc ici à contre-logique. Couloir sans issue, haute fenêtre inaccessible, porte colossale donnant sur une cellule, sur un puits, incroyables escaliers inversés, etc. De façon cruciale, cette contre-logique interdit toute émotion, toute émotivité. Presque comme si l'émotion avait besoin de lieux compréhensibles, de lieux prévisibles pour exister et surgir. Parce que, comme le dit le narrateur, aussi longtemps que cette cité subsistera, personne au monde ne sera courageux ou heureux. Le prochain texte est de John Dos Passos, Manhattan Transfer.
Il leva le châssis de la fenêtre et se pencha. Un tram aérien grondait au bout de la rue. Une bouffée de fumée de charbon lui monta aux narines. Penché à la fenêtre, il resta longtemps à regarder à droite et à gauche dans la rue. La seconde métropole du monde. Les maisons de briques, la lumière terne des réverbères, les voix d'enfants qui se taquinaient et se querellaient sur les marches de la maison d'en face, le pas ferme et régulier d'un policeman lui donnait une impressionnante mouvement comme des soldats en marche, comme un bateau à roues remontant l'Hudson sous les palissades, comme un monôme électoral qui se dirigeait par de longues rues vers quelque chose de grand, tout blanc, rempli de colonnades, d'une majestueuse somptuosité. On se mit soudain à courir dans la rue. Une voix haletante cria « Au feu !» Où ça ? Les gamins disparurent de dessus les marches d'en face. Thatcher revient dans la chambre. Il faisait une chaleur suffocante. Il avait une envie folle de sortir. Je devrais aller me coucher. Il entendit le piétinement de sabots et la sonnerie forcenée d'une pompe à incendie qui dévalait dans la rue. Je ne ferai qu'aller et venir. Et il descendit les escaliers, son chapeau à la main. De quel côté ? Le premier bloc en descendant, c'est une maison de locataire. C'était une maison de 6 étages à fenêtres étroites. On achevait de placer les échelles. De la fumée brune, zébrée de petites traînées d'étincelles, sortaient en abondance des fenêtres inférieures. 3 policemen balançaient leurs bâtons en repoussant la foule contre les marches et les rampes des maisons d'en face. Dans l'espace vide au milieu de la rue, la pompe et la voiture rouge qui portaient les manches à eau étincelaient de tout leur cuivre. La foule regardait, silencieuse, les yeux levés vers les fenêtres supérieures où des ombres s'agitaient et où brillaient de lueurs fugitives. Une mince colonne de flammes se mit à éclairer au-dessus des maisons comme une chandelle romaine. « Le puits d'aération !» chuchota un homme à l'oreille de Thatcher. Un coup de vent emplit la rue de fumée et d'une odeur d'étoffe brûlée. Thatcher se sentit soudain indisposé. Quand la fumée se dissipa, il vit des gens qui, agrippés les uns aux autres, pendus par les mains au rebord d'une fenêtre, se donnaient des coups de pied. De l'autre côté, des pompiers aidaient des femmes à descendre une échelle. La flamme au centre de la maison brûlait plus vive. Quelque chose de noir était tombé d'une fenêtre et gisait, hurlant, sur le pavé. Les agents faisaient reculer la foule de chaque côté du bloc, de nouvelles pompes arrivaient. Il y a 5 signaux d'alarme dans la maison, dit un homme. Que dites-vous de cela? Tous ceux des 2 étages supérieurs ont été bloqués. C'est un incendiaire qui a fait cela. Un sale bougre d'incendiaire.
Dans cette scène de terreur, de panique, nous sommes face au paradigme d'une émotion collective, de foule, ainsi que d'effets de distanciation et de proximité par rapport à toute cette émotionnalité extrême. Cependant, malgré le drame de ce qui se passe, l'effet de dépersonnalisation émotionnelle est puissant. Par exemple, dans cette image étonnante, quelque chose de noir était tombé d'une fenêtre et gisait hurlant sur le pavé. Quelque chose de noir. Bon, nous savons ce qu'est probablement ce quelque chose, c'est-à-dire un être humain vivant, ressentant, passionnel. Mais c'est comme si ces hurlements de douleur et d'effroi venaient ici d'un objet, ou peut-être même du lieu lui-même. La position affective de la foule face à ces scènes est donc ambiguë. Comme nous lisons plus haut, la foule regardait silencieuse, les yeux levés vers les fenêtres supérieures où des ombres s'agitaient et où brillaient des lueurs fugitives. Encore une fois, il s'agit d'ombres qui s'agitent, de lueurs qui brillent, dépourvues de toute nomination, de toute apparence de passion ou de souffrance humaine. En tant que lecteur, alors sommes-nous aussi mis dans une distance par rapport à ces spectateurs de la foule qui contemplent les émotions déshumanisées du lieu pour se protéger aussi, peut-être, de leur puissance. Et du coup, notre dernier texte, d'Italo Calvino, Les vies imaginaires.
Il vient à l'homme qui chevauche longtemps au travers de terrains sauvages le désir d'une ville. Pour finir, il arrive à Isidora, une ville où les palais ont des escaliers en colimaçon incrustés de coquillages marins, où l'on fabrique lunettes et violons dans les règles de l'art, où, lorsqu'un étranger hésite entre 2 femmes, il en rencontre toujours une 3e. Où les combats de coqs dégénèrent en rixes sanglantes, mettant aux prises les parieurs. C'est à tout cela qu'il pensait quand il avait le désir d'une ville. Isidora est donc la ville de ses rêves, à une différence près. Dans son rêve, la ville le comprenait lui-même, jeune. Il parvient à Isidora à un âge avancé. Il y a sur la place le petit mur des vieux qui regarde passer la jeunesse. Lui-même y est assis parmi les autres. Les désirs sont déjà des souvenirs.
Comme partout dans les vies imaginaires de Calvino, il s'agit ici de se protéger dans un de ces lieux imaginaires de l'esprit et de la littérature. Des lieux peut-être doués d'autant de réalité, d'autant de présence que les lieux que nous désignons d'habitude comme étant réels. Mais Calvino nous montre ici la difficulté, parfois extrême, qu'il y a à saisir ces lieux, de véritablement les habiter, pour la raison que ces espaces existent aussi dans le temps de la perception, de la projection, le temps de la mémoire et le temps de la vie tout court qui ne s'arrête pour personne d'entre nous. Donc ce dynamisme temporel est en effet si puissant et si inévitable que lorsque cet homme du passage, qui pourrait d'ailleurs être cette femme qui peut ressembler peut-être à nous tous, qui est une figure d'universalisation, quand cet individu arrive enfin dans cette ville idéale de ses rêves de jeunesse, il n'est plus pareil. Même si sa ville idéale, comme idéale, est restée intacte. Donc, presque comme une forme platonicienne, cette ville idéale peut très bien rester stable, mais en arrivant, nous, nous avons changé. Nous sommes transformés, non seulement par l'existence, mais par le fait de rêver si longtemps précisément à ce lieu idéal. En arrivant dans cette ville, cet individu donc se dédouble, se voit lui-même à l'extérieur, mais, et peut-être pour plusieurs raisons, parce que c'est nous qui créons activement l'impression de l'unité de notre vie et de notre subjectivité parfois, et parce que le désir de ce lieu idéal et l'accomplissement de cet idéal relève de deux identités, presque de deux individus distincts. Les désirs sont déjà des souvenirs, donc, parce que les désirs, se situant dans le temps, ne peuvent être fixés ou saisis, et sont donc en train toujours de faire partie, non pas de notre présent, mais de notre passé en devenir. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur.